Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI où nous allons vous parler de football et de ce clap de fin pour ce mercato un peu fou dans un contexte économique que l'on croyait délicat. Le transfert de joueurs entre clubs a donc encore vécu des heures de clôture très agitées, à l'exemple du retour à la maison d'Antoine Griezmann. Le Blaugrana redevient colchonero. Alors que le jeune Camavinga va s'installer au milieu chez les Merengues, le PSG lui conserve donc Kylian Mbappé, mais complète son recrutement historique par le jeune et très prometteur portugais Nuno Mendes. Il y aura aussi d'autres achats et ventes notables dont nous parlerons. Nous ferons le point sur ce mercato. Les éliminatoires pour les sélections africaines en ligne de mire, le Qatar, il n'y aura que 5 heureux élus sur le continent africain. Les mondialistes de 2018 restent-ils favoris de cet écrémage impitoyable? Qui pourrait intégrer le groupe? L'Algérie sans doute de Belmadi, mais qui encore? Invité dans ce studio aujourd'hui pour évoquer ces sujets, eh bien pour ce qui est de l'Afrique, nous avons Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Tout va bien?
Oh, très bien. Ouais. Ça ne fait que commencer, donc pour l'instant tout va bien.
On a une dizaine de jours là. Bonjour Nabil Djellit.
Salut Annie, salut à tous.
On va parler de l'Algérie, ça vous fait sourire j'espère.
Bah ces derniers temps non, mais là si, peut-être que j'espère que vous allez me redonner un peu le sourire en parlant de l'Algérie.
En parlant Merci. De l'Algérie, du football bien Merci. Sûr, et celle de Belmadi. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Annie, vous restez à RFI, Mbappé à Paris, c'est, je suis le plus heureux des hommes.
Et vous êtes là aussi dans notre studio.
J'essaye modestement.
Tout va bien alors. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission, Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Depuis de nombreuses semaines, Antoine Griezmann cherchait une porte de sortie, lassé de ne pas trouver sa place au FC Barcelone qu'il avait rejoint en 2019.
Chers supporters, je vous dis au revoir en vous remerciant de votre affection. J'ai tout donné pour ce maillot. Je me suis impliqué pour ce grand club et je pars triste de ne pas avoir pu profiter davantage de votre présence en tribune, mais fier d'avoir été un des vôtres.
Peu avant minuit, un coup de grisou, si je peux me permettre. Le champion du monde, Antoine Griezmann, a abandonné les Blaugrana pour retrouver les Colchoneros sous forme de prêt à l'Atlético. Le petit prince de l'Atleti a-t-il fait le bon choix en revenant auprès des siens, Nabil Djellit, ou n'a-t-il finalement pas eu d'autre choix?
J'ai l'impression que c'est surtout la deuxième affirmation. Il n'a pas vraiment eu le choix. Bon, moi, ça ressemble à une exfiltration de dernière minute. Vous savez, pour des joueurs de ce gabarit-là, en général, les transferts ne se font pas le dernier jour. Ils se travaillent en amont. Éventuellement, ils se concrétisent le dernier jour, mais c'est quelque chose qui est pour le coup la fin d'un process. Là, on savait qu'il y avait un intérêt de réciproque avec l'Atlético, puisqu'à un moment, on parlait de l'exfiltrer pour pouvoir conserver Messi, notamment grâce à la masse salariale, qu'il aurait pu
dégager. Du coup, après, ça avait
dégager.
Changé. Et puis
et finalement, ça va même... De toute façon, son destin était scellé. C'était même plus une question de Messi. Messi, et puis là, apparemment, il sera au PSG. Enfin, moi, je l'ai vu ce week-end avec le maillot du PSG. Enfin, c'est pas vous, mais moi, j'ai vu avec le maillot du PSG.
Oui,
mais,
on l'a tous vu.
Mais maintenant, ils se sont arrangés aussi pour sortir d'autres joueurs pour également lui faire la place et le faire revenir avec, rappelons, je sais pas, peut-être que c'était prévu au programme, mais les chiffres quand même, pour moi, c'est un crash industriel énorme.
On va y venir, voilà. Ce crash industriel. Pour l'instant, sur son choix... On se dit, Dominique Sévrac, revenir sur ses pas, alors même s'il s'agit finalement d'aller dans le club qui est champion d'Espagne, rappelons-le, c'était l'Atlético Madrid l'année dernière, est-ce que c'est pas un retour en arrière ?
Il paraît qu'il faut jamais ressortir avec son ex, donc ça y ressemble.
On l'a jamais entendu, ça, là, franchement.
Non, c'est l'histoire d'un fiasco.
On l'a jamais fait non plus.
C'est l'histoire d'un fiasco. C'est l'histoire d'un fiasco. C'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un problème de lucidité, de dimensionnement. C'est quelqu'un qui
pensait... Mais est-ce que c'est de la faute de Griezmann? Parce que finalement, on se dit peut-être qu'il est arrivé dans un drôle de Barça aussi.
Bah, c'est toujours le football, c'est un sport collectif, donc les torts sont toujours partagés. Il n'est pas tombé forcément sur le bon entraîneur, sur le bon vestiaire, puisque c'est plutôt un garçon plutôt sympathique. Mais il avait quand même un problème de lucidité. C'était un homme qui disait qu'il voulait s'asseoir à la table des grands, qui pensait pouvoir s'y asseoir, alors qu'il n'a pas la dimension d'un Cristiano Ronaldo, d'un Lionel Messi...
Il y a déjà Benzema, d'un Mbappé,
d'un Lewandowski. Il y a déjà Memphis Depay qui vient d'arriver, qu'on connaît bien, qui vient de Lyon. Et déjà, il lui vole la vedette sur les premiers matchs de la saison. Donc, vous imaginez que le petit attaquant de Lyon, là, qui était ces dernières années, il est déjà mieux vu que Griezmann, qui joue sur un côté en plus, ce qu'il n'aime pas.
Il avait aussi fait une erreur de communication, Dominique. On se souvient de sa fameuse La Décision, où en 2018, pendant la Coupe du Monde, il nous sort une vidéo d'extraterrestre là, en disant « je reste ». Et pour un an après partir, et ça a laissé des traces chez les Blaugrana.
Ça a laissé des traces. Moi, de ce que je sais, parce qu'il y a eu des fantasmes et beaucoup de démentis, mais Messi ne le supportait pas.
C'est vrai.
Messi n'aimait pas du tout Antoine Griezmann. Et comme Messi était le patron...
Il n'aimait pas sportivement ?
Il n'aimait pas tout. Tout rien n'allait aux yeux de Lionel Messi. Donc Lionel Messi, c'est Piqué, c'est Busquets, c'est Jordi Alba, c'est tous les potes. Et donc Griezmann, il se retrouvait avec Ter Stegen, le seul garçon dans le vestiaire qui détestait Messi, qui est le gardien allemand. Donc vous pouvez pas voilà, c'est un rapport de force, le foot c'est des animaux, c'est très compliqué de vivre au sein d'un vestiaire. Il a perdu, il a pas la dimension, il a pas les épaules, il va retrouver un entraîneur qu'il adore et puis ça va bien se passer pour lui.
En plus, il y a peut-être un déclassement entre guillemets financier. Il a coûté 120 millions quand il y avait eu ce transfert, et là on parle de 40 millions. Patrick Juillard, c'est aussi pour l'image du joueur champion du monde, rappelons-le.
C'est sa cote en fait, sa cote sur le marché. Elle a beaucoup baissé. Elle a été beaucoup, amoindrie par cette mauvaise parenthèse, parce que pour moi c'est une parenthèse. Ça va, ces deux années au Barça, enfin deux années, qui est la troisième qui commençait, vont rester comme une parenthèse. Et c'était un joueur qui était maître des horloges, maître du temps, et qui maintenant subit les choses. Quand il fait
s'il était allé en 2018, ça aurait changé quelque chose en tant que champion
parce
du monde.
Là, c'était son momentum.
Et un autre Barça en plus avec Suarez et Messi.
N'oublions pas qu'avant d'être champion du monde, il gagne la Ligue Europa avec l'Atlético au moment où le Real gagne également. Mais à ce moment-là, donc il est à la table des plus grands joueurs européens. Il gagne la Coupe du Monde où il est le leader technique du champion du monde. Donc on peut guère faire mieux. Et ensuite, son début, déjà, je pense que son début d'aventure difficile au Barça le prive peut-être du Ballon d'Or qui va à Modric, qui lui était resté sur ses standards habituels.
C'est le troisième cette année-là, derrière Modric et
voilà,
Cristiano.
Voilà. Et ensuite, il n'a jamais pu remettre les choses dans le bon sens. Et pour moi, c'est ça, c'est un joueur.
Ni à l'Atlético, sa dernière année est un peu compliquée.
Même son Euro, je suis désolé, ni son Euro avec l'équipe de France, ses quatre matchs avec l'élimination contre la Suisse.
On avait l'impression.
Il traverse comme une ombre un peu.
Ouais, on avait l'impression quand il revenait sous le maillot bleu, c'était un peu pour respirer, mais. Bon.
C'était la famille, comme il disait. Ouais, mais là, ça a trouvé ses limites avec cet Euro où il y a eu un crash et on n'a vu que Benzema.
Exactement.
Alors le Barça finalement en un an a perdu et Suarez et Messi et maintenant Griezmann, en tout cas des joueurs de renom. Lui il retrouve en plus une équipe qui est championne d'Espagne.
Ouais, qui a gagné la Liga. Ouais.
Et qui s'est renforcée et qui a un bel effectif. Est-ce que finalement quand même il part du bon côté, Nabil?
C'est difficile de répondre. Après une parenthèse aussi désenchantée. Un joueur qui a perdu une énorme confiance, quel Griezmann va réceptionner,
exactement,
entre guillemets, Diego Simeone. Déjà, il va arriver avec un statut quand même dégradé, déclassé presque.
Ouais,
une équipe qui a gagné sans lui. Ensuite, moi, après ça, c'est mon opinion. Je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il a démarré le toboggan. Moi, j'ai l'impression que ses meilleures années sont derrière lui.
Il a 30 ans. Hein.
Voilà, et ça reste un top player, mais il sera plus invité au top 10 des meilleurs joueurs de la planète. Je le vois comme ça. Il a perdu trop de confiance dans cette histoire. Je pense que ça va être assez marquant et traumatisant pour son estime et l'ego de lui-même, cette aventure du FC Barcelone, où il a voulu, comme l'a dit à juste titre Dominique, venir matcher Messi quelque part, ou du moins être... à sa table. Voilà, donc bon, et dans le collectif de l'Atlético, évidemment, qui va certainement performer. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont là, Suarez, Joao Félix, je pense notamment. Donc l'histoire a continué à s'écrire sans lui. Son départ s'est théâtralisé. C'était pas la meilleure des options pour un tel club qui vous a permis également d'arriver là où vous êtes arrivé. Son retour en forme de chemin de croix et de calvaire. c'est pas non plus la meilleure manière de revenir. Moi j'aurais préféré qu'il parte ailleurs, très sincèrement. J'aurais préféré qu'il parte à la Juve ou en Angleterre.
Peut-être qu'il passe sur un, mais est-ce qu'il avait des offres?
Non, il n'y avait pas d'offres parce qu'il avait un salaire tellement stratosphérique. Qu'il parte sur un nouveau challenge pour sa carrière. Bon, bah, il reste en Liga, dans un confort, pour moi, que j'estime inconfortable.
Le prochain match, ça sera l'Espagnol Barcelone Atlético, quatrième journée, où peut-être qu'il apparaîtra, puisque, de toute façon, il arrivera en forme. Il avait commencé la Liga. Donc, il n'y a pas de raison. Mais on se souvient de cette banderole, c'était le 1er décembre dernier, au stade Metropolitano, où certains avaient écrit, tu as voulu te faire un nom, mais tu as oublié d'être un homme. Les supporters, en plus de l'Atleti, c'est peut-être pas sûr que il lui pardonne.
Bon, je le vois dans d'autres pays, la versatilité des supporters, elle est quand même assez forte, donc bon. On peut penser qu'il y aura des réactions d'humeur, puis après, vous savez, c'est toujours peut-être...
Il a joué 5 ans là, quand même.
C'est peut-être 500 personnes, mais il y a aussi 10 000 qui disent rien et qui l'adorent, donc c'est toujours compliqué.
Tu fais 3 petits ponts et puis ça va.
Voilà, normalement, tu mets 3 buts et les gens oublient, en tout cas, au bout d'un mois, même Neymar, il voulait partir, retourner à Barcelone, et le parc l'a sifflé, puis un mois après, tout le monde a oublié. Donc c'est l'histoire un peu du foot. Sa chance à Antoine Griezmann, c'est de retomber sur Diego Simeone, qui est une sorte de père spirituel pour lui et qui va à la fois calmer l'opinion publique locale et qui va
le guider
pour le remettre sur le, et qui en plus sait où l'utiliser le mieux, parce que c'est aussi l'histoire d'un joueur qui a été trimballé sur les côtés. Alors c'est pas un joueur pour moi, c'est pas un joueur de côté, peut-être que je peux me tromper, mais moi je pense que c'est un joueur d'axe ou un 9,5, quelqu'un qui peut tourner autour d'un attaquant, d'une pointe, un Giroud, un Mbappé éventuellement, un Benzema, même si bon.
Voilà, avec Suarez ça peut le faire.
Voilà. Éventuellement, mais en tout cas, c'est pas du tout un genre de côté. Il a pas du tout les qualités.
Il
n'est pas ça. Ouais. Moi, je me souviens de cette image, si je peux me permettre, qui m'avait marqué. C'est vrai que à un moment, la Liga, c'était la BBC, mais Ronaldo, Neymar, Messi et Griezmann. Il incarnait l'Atlético, certes, en termes de talent, en dessous des deux autres. Mais je me souviendrai toujours de cette image d'un match entre le Barça et l'Atlético. Et dans lequel c'était la star de l'Atlético et on voit Griezmann entrer en cours de jeu à la 90e plus 1, un truc bon qu'on fait en règle générale pour des joueurs pour qu'ils touchent la prime de match parce qu'ils sont rentrés, et à côté il y avait Diego Simeone qui se retourne et qui le regarde à ce moment-là et qui se met les mains sur la tête, ce joueur que lui chéri en a fait une star mondiale, il était à côté de lui devenu anonyme, remplaçant au Barça. Ça m'avait marqué cette image.
Il a la chance d'avoir une image positive, Annie, hein, parce que il s'est crashé à l'Euro. Il y a une histoire de vidéo qui est sortie où il se moque visiblement des Asiatiques. Il reste alors que Messi, on trouve pas un accord pour le prolonger. Tout le monde dit si tu t'en vas, ça allégera déjà la masse salariale. Il part alors que Messi est parti. C'est-à-dire que c'est même plus le problème que Messi est là ou pas là. C'est-à-dire qu'on le fait partir même quand Messi est parti. C'est dire si on n'a pas besoin de lui. Donc là, ça sera un autre joueur. Tout ce que je viens de citer là, en tout cas en France. Si c'était tombé sur Karim Benzema, tout ce que je viens de dire, je peux vous dire qu'il y aurait déjà des débats à l'Assemblée nationale et tout le monde sera en feu dans un pays qui est crispé et qui est complètement fou, qui s'appelle la France. Donc, il a de la chance d'avoir une bonne image, Antoine Griezmann.
Non, mais c'est un peu l'histoire de sa vie, parce que la biographie qu'avait coécrit Arnaud Ramsay à son sujet, ça s'appelait « Derrière le sourire ». Et il disait, en gros, la phrase qui était la pierre angulaire du livre, c'est « Derrière le sourire, j'ai beaucoup galéré. Avant d'arriver où je suis, ça a été très difficile. »
Oui, on se souvient.
Et aujourd'hui, on
ne
voit plus de sourire quand on voit Griezmann. On voit ce qu'il y a derrière. Mmh. Et il galère de nouveau. Alors, c'est très loin de ce qu'il a connu quand il était jeune et qu'on lui disait « T'es trop petit, tu ne pourras pas faire du foot professionnel. » Mais d'une certaine manière, on est à nouveau derrière le sourire, là. On est à nouveau dans... un Griezmann qui va devoir se battre. Et c'est intéressant à voir. C'est-à-dire, comment va-t-il se regonfler,
c'est quelqu'un qui sait se battre, peut-être.
Se reprendre. Ah. Voilà. Peut-être, pour moi, c'est intéressant malgré tout.
Au moins, on saura comment l'utiliser. Parfois, dans le football,
ça peut
vous aider.
Plus compliqué que ça.
Déjà, je serais intéressé avec l'équipe de France, puisque Benzema et Mbappé sont toujours là. J'aimerais bien savoir comment il va jouer.
On aura la réponse dans quelques heures.
Le tacticien, Deschamps.
En tout cas, le Barça, on y reviendra pour cette quatrième journée, mais ressort-il amoindri ou pas de cette histoire? En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant, mais surtout de symbolique. Ils ont retrouvé un numéro 10 du côté du FC Barcelone. Et qui portera ce dossard immortalisé par Léo Messi? Eh bien, c'est le jeune Ansu Fati, qui revient de blessure, que Messi aimait plutôt beaucoup, et qui donc aura la lourde tâche de porter remporté ce numéro. Continuons avec un autre Français concerné en dernière minute, un autre petit prince aussi. Lui, on l'a surnommé le petit prince du Roazhon Park. C'est Eduardo Camavinga qui quitte la Bretagne pour Madrid, qui quitte le Stade Rennais pour le Real Madrid. Le milieu de terrain qui avait fait ses débuts en Ligue 1 à 16 ans, 4 mois et 26 jours, on en avait parlé à l'époque, c'était en avril 2019. Eh bien, il a 18 ans, il vient donc de signer un contrat de 6 ans. A priori, selon Marca, nos confrères espagnols, ça serait 31 millions plus 9 de bonus, alors qu'il aurait été libre dans 6 mois, hein, décidément. En tout cas, c'est une bonne chose pour le club et c'est ce qu'a souligné le directeur sportif de Rennes, Florian Maurice.
Je trouve que c'est pour le club, pour le joueur, quelque chose qui se finit très bien. Parce que j'avais toujours dit, je ne souhaitais pas que Eduardo parte libre. Dans le contexte aujourd'hui, il aurait pu dire, j'attends 6 mois avant de signer quelque part et je pars libre. Et ça, il ne le souhaitait pas vis-à-vis de son club formateur. Il est récompensé parce que c'est un top mec. C'est un top joueur. Je pense que le Real Madrid lui permettra en tous les cas d'avoir les moyens de devenir un très très grand joueur.
Un top mec qui a remercié son club, bien sûr, sur les réseaux sociaux en disant « Le club me connaît maintenant depuis l'âge de mes 11 ans. Ils m'ont vu grandir, ils m'ont aidé à évoluer. C'est aussi grâce à eux que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. » Dominique, est-ce que c'est la bonne direction? Parce que, alors pourquoi je vous pose la question? Parce que Camavinga, certes, il a 3 sélections. On s'en souvient d'ailleurs de son apparition très fraîche dans l'équipe de Deschamps. Mais ensuite, on a eu l'impression qu'il avait un peu perdu la boussole et que finalement... C'est un joueur prometteur, mais voilà. Est-ce qu'il ne part pas, Annie, on va pas dans avoir... un trop grand club, je dirais?
Bon, on ne va pas avoir la réponse tout de suite. Il ne vient pas pour jouer titulaire. Il y a déjà beaucoup de monde.
Je crois qu'il y a du monde au milieu.
Au milieu de terrain, il vient pour apprendre. Et il va falloir... Alors, c'est un Français qui vous dit ça, parce que les Espagnols, eux, ils auront un autre jugement, notamment la presse. Mais il va falloir avoir de l'indulgence. Quand on a 18 ans, qu'on arrive dans le plus grand club du monde, ça peut pas forcément se passer tout de suite. Varane est arrivé à peu près au même âge. Il a pas eu tout de suite l'aura qu'il a eu qu'on vient de voir, voilà, en quittant pour Manchester United. Donc il va falloir être un peu patient. Il vient pour apprendre. Il a signé 6 ans. C'est long, 6 ans. Benzema non plus. Il est pas arrivé au même âge, mais Benzema, les premiers mois ont été un peu difficiles. Donc on va lui laisser de l'adaptation. On peut comprendre son choix de partir pour le plus grand club du monde. Ça ne se refuse pas.
À 6 mois de la fin de son contrat.
C'est magnifique. C'est, l'histoire, elle est très très belle. Quand on connaît son parcours, tout, c'est génial. Et puis, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il va apprendre parmi les meilleurs. Quand vous êtes au milieu de Casemiro, de Kroos, de Modric, et puis il y a tous les joueurs autour. Bon, il est bien là.
Une bonne école. Peut-être, et si on sait de cet exemple aussi, c'est parce qu'on peut peut-être un petit peu s'inquiéter parfois de joueurs qui ont été des accidents du côté du Real Madrid. Alors je pense évidemment à Anelka, qui arrive là-bas à 20 ans, c'était en 1999.
Raoul n'en voulait pas, donc
c'est sûr. Oui, alors c'est sûr que ça joue. 32 matchs. Robinho, le Brésilien, qui arrive de Santos en 2005, 21 ans. Alors il fait 43 matchs avec Capello, qu'il l'aimait bien, et puis tout d'un coup on l'écarte, et finalement sa carrière s'est cassée la figure derrière. Martin Odegaard, arrivé à l'âge de 16 ans, acheté par le Real très tôt, il a fait 9 matchs.
Les prêts, quoi.
Voilà, et maintenant il a été vendu à Arsenal. Est-ce que c'est pas aussi, c'est pour ça que je disais plutôt un trop grand club?
Non, je pense pas. C'est-à-dire que la pression n'est pas la même. Quand Anelka arrive, c'est pour être briguer une place de titulaire. Quand Robinho arrive, il est présenté comme le successeur de Ronaldinho, le futur grand joueur brésilien des 10 années à venir. Ça s'est pas démontré ensuite, mais non, il va, comme l'a dit Dominique, il est là pour apprendre, il va pas briguer une place de titulaire au milieu de ses joueurs.
Mais au Real, on aura la patience.
Parce qu'on dit, le milieu du Real est vieillissant. Oui et non. Casemiro, il a même pas 30 ans.
Non, il les a pas, oui.
Kroos, lui, il a 31, je crois. Et Modric a 35 ans, mais il va pas remplacer Modric, c'est pas son poste. Il a du temps. Il y a Valverde aussi qui lui est plus proche d'être, à mon avis, d'entrer dans le trio magique du milieu du Real. Ensuite, reste à savoir comment va jouer le Real, s'ils continueront à jouer avec un trio au milieu ou pas, ce qui est pas certain. A priori, c'est leur schéma un peu classique, mais moi, je pense qu'il est là pour apprendre, c'est tout. Et il est pas exclu qu'il soit prêté aussi.
Ses propositions, c'était Paris, Manchester United, le Real. Donc, de toute façon, le problème, ça serait posé partout,
Nabil, c'est quand même un...
Ah bah, ça se refuse pas. Et puis surtout, ça vous permet ensuite déjà d'arriver dans un vestiaire extraordinaire, un club extraordinaire. Même si ça se passe mal, ça vous servira pour la suite et vous resterez, comme je le dis, dans le circuit des grands clubs. Parce que quand tu te fais recaler du Real, hein, au pire, tu descends à Arsenal.
Bon, Robinho était parti à Manchester City.
Non, mais voilà, donc derrière, bon, de toute façon, vous êtes rentré dans les joueurs considérés comme des joueurs...
Il n'ira pas à Newcastle.
Voilà, des joueurs importants, quoi. Avant la dégringolade, il faudra attendre un petit peu. Bah, après, je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus une pouponnière. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi montrer très vite ses qualités sur le peu de temps de jeu qu'on a. Après, le Real, aujourd'hui, bah, il recrute des superstars, mais il recrute aussi des jeunes à fort potentiel, ce qui est un peu un logiciel qui a changé ses jeux. Ils ont fait Vinicius,
Asensio,
Rodrigo également, un qui est parti Asensio. À l'Atlético, qu'ils n'ont pas gardé. Alors, tout le monde ne réussit pas, mais ils ont aussi cette politique maintenant de se positionner très vite sur des jeunes à très fort potentiel, mais la crème de la crème. Donc, ils doivent l'estimer comme ça, parce que pour mettre 30 millions sur un garçon qui n'a pas encore fait grand-chose, bah, c'est quand même une certaine somme. Ouais. Et ensuite, bah, ça sera à lui de saisir sa chance. Mais rien ne vous dit que l'année prochaine, quand vous arrivez dans ces clubs-là, il n'y a rien de garanti. Hein, parce que Pogba, il peut se pointer, il peut y en avoir un autre. Il faut être très fort.
Est-ce qu'à Rennes, il plafonnait parce qu'il avait un problème psychologique à assimiler le fait d'être devenu international aussi jeune, ou est-ce qu'il plafonnait parce que c'était un club pas assez, entre guillemets, challengeant, quoi, pas assez
On aura la réponse bientôt.
Compétitif.
Non, mais les qualités, elles sont là. Pour moi, c'est un joueur, c'est une évidence. Mais bon,
on a eu cette impression, je me souviens, quand il était apparu bleu, donc ça peut être une belle chose.
Et puis avec Ancelotti, il va bien travailler.
En tout cas, Dominique, alors le Real Madrid, il doit se contenter du petit Camavinga, on peut se dire ça, à défaut d'accueillir la star qu'ils voulaient, qu'ils ont désiré et qu'ils ont tenté de séduire.
Et maintenant, que vais-je faire?
Et oui, Annie.
Qu'est-ce que vous allez faire, Dominique? C'est Keda. Il reste.
Bien sûr, encore un an de plaisir.
Il est resté.
Un an de plaisir, un an de Messi, de Neymar, de Mbappé. On espère se régaler. Les amateurs de foot espèrent se régaler. Ils avaient envie de voir ça. On l'a vu trop peu à Reims.
On l'a pas vu.
On l'a pas vu, parce que de toute façon, c'est le début de saison.
Pochettino nous a privé de ça.
Voilà. Et on a envie de le voir, au moins une fois dans notre vie. Donc voilà. Bon, après, peut-être qu'on est un peu des footix. Peut-être que.
Qu'on se lassera, qu'on critiquera.
Non, mais bon, ça manquera d'équilibre, ça manquera peut-être de. Mais bon, on a envie de voir ça une fois dans notre vie.
Voilà. Exactement. Mais Dominique, est-ce que quand même, cette proposition, quand même, cette tentative du Real, est-ce que vous pensez que Kylian est affecté ou pas?
Sportivement, non, parce que il se considère pas comme étant au bagne dans une équipe au rabais. Il est au Paris Saint-Germain
On a vu son professionnalisme.
Un club puissant qui est candidat à la victoire finale. Aujourd'hui, il est crédible. Quand vous dites le PSG peut gagner la Ligue des Champions, les gens vous rient plus au nez. Alors qu'il y a quelques années, on disait t'as vu, c'est le club qui a fait la remontada, arrêtez. Là maintenant, ils ont fait demi-finaliste. Mm-hmm. On dit pourquoi pas. On dit pas que le PSG va la gagner. On dit c'est possible quoi en fait. Donc il est au très bon endroit. Après, je pense que ça va laisser des séquelles là, entre Mbappé et son entourage et la direction du club. Voilà, il y a eu des mots.
Il y avait déjà un peu de friture.
Et bah oui, mais là, voilà, il a été mis un peu sur la place publique. Il y a Nasser El Khelaifi qui a dit qu'il n'a plus d'excuses pour ne pas prolonger le jour de la présentation de Messi, ce qui fait qu'il a été sifflé au parc, parce que forcément, quand vous dites ça, trois jours après, les supporters les sifflent.
Pourtant, et Leonardo
qui a dit personne n'est au-dessus
projet.
De l'institution. Bon, comme cinéma, il arrivait toujours à l'heure, avec les kilos, pas de kilos superflus. Bon, pour l'institution, je pense qu'il y a d'autres qui la maltraitent beaucoup plus que Kylian Mbappé. Donc il y a des choses qui vont laisser des traces comme ça. Avec le temps, ça va peut-être se calmer.
Il a une posture silencieuse, hein, qu'il ne parle pas avec la presse, mais qu'il parle avec ses pieds, voire avec ses doigts sur les réseaux sociaux.
Pas avec la presse,
il envoie des messages.
Oui, voilà, ils envoient quand même des messages, parce qu'on a bien compris quand même.
Le petit message liké, partagé d'un fan qui lui dit « reprogramme tes rêves pour bientôt, la vie est belle, tu es le meilleur », qu'il a effacé ensuite.
L'histoire, elle est connue. Hein. À l'été 2022, après le 30 juin, à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, il va aller au Real Madrid, libre. Et voilà, c'est comme ça. Et on pourra pas dire qu'il a voulu partir libre, puisque on pourra dire que Paris a refusé au moins 180 millions d'euros. C'est ce qu'on pourra dire. Peut-être que cette offre était peut-être pas vraie, peut-être qu'elle est un peu surgie, elle était un peu téléguidée, mais on sait que Paris a refusé 180 millions d'euros pour lui. Donc, il part libre, mais pas parce qu'il l'a voulu, c'est parce que Paris n'a pas voulu le vendre.
Marca l'attend, hein. Ils ont titré aujourd'hui Siempre te quedará el Madrid. Le Real t'attendra toujours.
Moi, je pense que Madrid est en train de préparer pour la saison prochaine quelque chose d'incroyable. Le retour des Galactiques avec deux joueurs extraordinaires qui s'appellent Kylian Mbappé et Erling Haaland.
Ouais, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Puis il y aura Camavinga.
Qui n'est pas encore galactique.
Non. Qui n'est pas encore galactique, certes, mais qui aura peut-être appris. Nabil, sur cette Sequeda, ça veut dire que, par contre, c'est prometteur pour cette équipe du PSG, en tout cas pour un trio offensif qu'on a envie de voir.
Ah bah oui. Après, évidemment, il y aura des questions d'équilibre. Ils sont encore renforcés avec un latéral gauche. On verra ce que ça donne en termes de l'aspect défensif, parce qu'offensivement, on n'a aucun doute. Hakimi, c'est un ailier. Enfin, bon, voilà. Enfin, ils ont tous, en Ligue 1, franchement, ils peuvent jouer avec Donnarumma sur le terrain. Franchement, ils ont tout le temps de ballon. On y va avec du feu, quoi. Non, mais au moment quand ils seront à plein régime, quand ils seront fit physiquement tous, et là, je rejoins Dominique sur l'état de forme. Bon, après, on sait comment ils fonctionnent. De Neymar. Oui, c'est prometteur. Et puis, de toute façon, là, ils ont plus le choix. C'est-à-dire que, évidemment, gagner la Ligue des Champions, c'est difficile et ça se gagne pas sur le papier. Mais pour tout le monde, pour toute la planète football, tout autre résultat qu'une victoire en Ligue des Champions est un échec, parce que ils ont Messi, on l'a un peu oublié. Enfin, c'est pas qu'on l'a un peu oublié,
non,
quoi.
Non,
c'est lunaire. Ils ont Neymar, ils ont Ramos. On parle plus de Ramos. Leur deuxième gardien, c'est le meilleur gardien du dernier Euro. Ils ont Hakimi, c'est Saïd Awita au niveau du cardio. Là, ils viennent de prendre un latéral gauche portugais prometteur. Ils ont Wijnaldum, le capitaine des Pays-Bas. Ils ont Verratti, qui est exceptionnel. Ils ont Marquinhos. Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi.
Et ben justement, ce recrutement illimité du PSG, c'est terminé cette nuit avec encore une recrue et là un jeune prometteur.
Nuno Mendes, ali já na grande área, Nuno Mendes, pode ser o gol do Sporting, Nuno Mendes, golo! Que espetáculo, Nuno Mendes! A passar por três adversários, ali e aqui e aqui e ali, parecia que ele ia perder a bola, mas isso não aconteceu. E aí está o Sporting na frente com um golo magistral de Nuno Mendes.
Magistral.
Um golo magistral hein, de Nuno Mendes, que vient donc du Sporting du Portugal, qui a fini champion. Hein, donc c'est le club champion du Portugal. 19 ans, un latéral gauche. Vous l'aviez déjà remarqué, vous aussi, Patrick Juillard?
Oui, enfin, je l'avais surtout remarqué dans les comptes rendus des matchs, parce que je ne regarde pas toutes les semaines ce championnat, étant donné que je ne peux pas me couper en 6 ou 7. Mais je pense que surtout, ça en dit long sur les difficultés de Juan Bernat à revenir au plus haut niveau, parce que Juan Bernat, a priori, était un latéral gauche plus référencé que ce jeune Nuno Mendes.
L'Espagnol.
S'ils le prennent à ce prix-là au dernier moment, c'est qu'ils ont un sérieux doute sur le retour plus haut niveau de Juan Bernat. Ils n'ont pas confiance en Kurzawa, ça c'est une certitude.
Pourtant, ils l'ont prolongé.
Oui, ils l'ont prolongé, mais ils n'étaient pas contre l'idée de le vendre,
CD, oui.
De l'exfiltrer cet été contre un chèque. Oui. Donc je pense que ce jeune va avoir du temps de jeu, puisque Bernat, a priori, n'est pas parti pour.
Ça fait 12 septembre.
Et Diallo, c'est plutôt quand même un joueur axe gauche qu'un vrai latéral. Il peut faire la maille si on joue 3 ou Brest en championnat. En Ligue des Champions, j'y crois moins.
Dominique Juan Bernat, blessé,
depuis le 12 septembre 2020, donc ça fait un an. On dit qu'il faut autant de temps pour revenir que le temps qu'on a été absent. Donc vous imaginez que...
C'était une blessure à la cheville.
Au genou. Donc vous imaginez qu'il sera peut-être prêt en mai 2022.
Ouais.
Bon, vous pouvez pas...
On sait que le genou, c'est terrible.
Nabil a rappelé les ambitions, qui est la finale ou rien. Bah, même la gagne ou rien.
Donc,
on ne peut pas faire la saison avec Abdou Diallo et Kurzawa. Donc, il y a Nuno Mendes. Mais c'est aussi il a 19 ans.
Une interrogation.
Il était à l'Euro, mais il a pas. Il a 5 sélections. C'est aussi.
Il manque un peu de référence.
Voilà,
il
va arriver dans, comme l'a dit encore Nabil, avec l'équipe où il y a Messi, il y a Neymar, il arrive dans un truc de star, dans un vestiaire de folie. Alors, il a la chance de parler la même langue que certains. Il y a quelques lusophones dans le vestiaire. Mais ça va pas être facile, quoi. Il change de monde.
Bah oui. En tout cas, voilà pour ce qui est des gros transferts. Mais je sais pas, on en a retenu, il y en a eu certains notables dans ces dernières heures. Mais il y en a un quand même qui concerne encore un club français ou un français en l'occurrence là, c'est un club français et c'était du côté de Lyon, un ancien bavarois.
Hello fans of Lyon, I'm super excited to be here and happy to see you soon in the stadium and yeah, wish us good luck and I see you soon guys. Bye.
Voilà, il nous souhaite good luck et surtout à lui, je suppose, c'est Jérôme Boateng, l'homme qui avait renversé Messi, on se souvient tous de cette image.
Le premier match de Messi au Parc, a priori, puisqu'il ne pourra pas jouer Clermont à cause des éliminatoires de l'Argentine, ce sera un PSG Lyon au parc. Donc ça sera Messi contre Boateng, ça va être génial.
Ça va être trop drôle de les retrouver. En tout cas, champion du monde 2014 avec la Mannschaft, il arrive à 33 ans libre de tout contrat dans une défense de l'OL. Patrick Juillard qui avait bien besoin de renfort, c'est un bon coup pour l'OL.
Largement, oui. L'OL qui ne comptait plus sur Marcelo, qui a été envoyé avec congédié. L'équipe réserve, les amateurs, qui avait besoin d'un taulier, d'un défenseur comme... Avec ce profil-là, un peu du type de Dante à Nice ou de José Font à Lille, un défenseur costaud, rude sur l'homme, mais qui a aussi l'expérience, le sens du placement, qui va pas se jeter, qui peut être compatible avec un entraîneur comme Peter Bosz, qui est plutôt un entraîneur qui compte sur l'intelligence de ses défenseurs, sur le, plutôt que sur le côté vraiment agressif, rugueux, qu'ont certains entraîneurs plus défensifs, justement. Il veut avant tout des footballeurs en défense, et je pense que Boateng, c'est plus, il est plus dans sa prime jeunesse. Ça a jamais été un joueur très rapide, mais par contre, en termes de...
Il est pas long non plus. Hein.
Comment?
À côté de Marcelo, c'est une forme de...
Oui,
hein.
Voilà. Mais bon, à Lyon, il y a des joueurs relativement rapides, mais pas des joueurs très expérimentés, ni très... qui sentent vraiment les choses en défense. Da Silva, c'est un bon joueur de Ligue 1. De Neuer, c'est un joueur, à mon avis, surcoté. Donc, Boateng, pour moi, c'est un recrutement providentiel super, pour cette équipe-là.
C'est super en Ligue 1 d'avoir un champion du monde 2014. Oui. C'est génial.
Mm-hmm.
C'est, bah, je suis content, moi.
Bah oui, je pense que pour l'OL qu'on observe là et qui avait un peu mal commencé son championnat, il y a eu une seule victoire pour l'instant. Ouais. Nabil, c'est la bonne recrue. Ouais,
bah, c'est, bon, pour être clair, après, on verra ce que ça donne sur la saison parce que moi, j'ai quand même certains doutes, mais c'est une autre histoire. Mais Boateng, c'est inespéré. Boateng, c'est un joueur qui doit signer au PSG, il ne doit pas signer à Lyon.
Mais je veux dire, sur ce match. Il y a embouteillage.
D'ailleurs, ça a failli se faire avec Antoine Riquet.
Oui, ça avait failli se faire. Donc, non, mais je veux dire, dans l'absolu, voilà, comment on le situe. Alors après, certains peuvent avoir certaines réserves. Moi, j'en ai pas. Pour moi, c'est. Bon. S'il n'a pas de pépin physique, c'est un monstre, quoi.
Franchement, en 10 jours, Shaqiri remplaçant à Liverpool et Boateng titulaire avec le Bayern, moi, je dis pas mal quand même comme recrutement.
Ouais, après, faut voir.
Après, c'est un recrutement tardif et surtout un peu de réaction. On sent pas que ça a été pensé.
C'est pas des panic buys.
Non, c'est pas des panic buys, mais. Boateng était libre depuis le 30 juin. Pourquoi Lyon n'est pas allé dessus avant? Est-ce que s'il n'y avait pas eu le problème Marcelo et l'exclusion de Marcelo, est-ce qu'il serait allé dessus? Donc, c'est bien, mais j'ai pas l'impression que ça soit très pensé en amont. C'est ça qui est un peu inquiétant pour l'OL, en
fait. Ça a quand même été pensé pour au moins compenser
Pour 24 heures, oui.
Ouais. Bon, on verra ça.
On verra, ouais.
Dominique, il y a des joueurs qui sont libres de tout contrat. Ça veut dire qu'ils peuvent rebondir encore.
Il y a plus de gong pour eux. À tout moment. Il y a notamment Serge Aurier.
Voilà. Il y a Pastore aussi.
Ouais. Hein, alors, moi, j'irai plus sur Serge Aurier parce que c'est un poste très spécifique, latéral droit. Et puis même jouer dans une défense à 3, c'est quand même voilà, il y en a pas beaucoup. Lui, il connaît très bien la Ligue 1. Moi, je serais un club de Ligue 1, Monaco, Lyon. Je foncerai sur lui.
Serge Aurier a déjà des pistes.
Super état
notamment
d'esprit.
Notamment Fenerbahçe en Turquie.
Voilà. Bon, il est grillé. Il y a son image qui a été un peu abîmée par son histoire de Periscope où il s'est moqué un soir de Laurent Blanc et de ses partenaires. Sirigu, Di Maria, Zlatan, tout ça, avec des propos peu amènes, mais bon, il faut oublier ça, il faut passer outre ça. C'est un super footballeur, Serge Aurier.
Ouais, mais au moment où Leonardo met en avant l'institution pour critiquer Mbappé,
non, mais c'est pas pour le PSG.
Pas pour le PSG.
Non, en Ligue 1. Pardon. Il disait en Ligue 1, pardon. Il connaît déjà la Ligue 1. David Luiz, on dit que Marseille pourrait s'intéresser à David Luiz.
Mais avec quel argent?
Ils aiment bien les cheveux. Non,
mais, qu'il puisse s'intéresser à lui, franchement, moi je trouve que ce serait une bonne idée. Je pense qu'aujourd'hui c'est son niveau. On a vu qu'en Angleterre, il a été en difficulté à plusieurs reprises avec l'intensité. Une boulette tous les deux ou trois matchs. Bon, après, ça reste quelqu'un quand même qui a une expérience XXL, qui a joué en équipe du Brésil. Pour une autre équipe de Ligue 1 que le Paris Saint-Germain, oui, ça peut être un truc recrutement intéressant. Mais Marseille, ils vont le payer comment, là? Ils sont obligés de jongler avec le dossier Harit pour le faire valider par la DNCG. Donc, je vois pas, en fait, mis à part les joueurs qui devaient vendre, ils les ont pas vendus. Caleta-Car ou Camara ou d'autres. Donc, moi, ils n'ont pas la surface financière aujourd'hui pour faire David Luiz.
Peut-être quelqu'un d'autre, alors. Et Ben Arfa aussi, qui est libre, libéré par Bordeaux.
Ah. Bah, on connaît le problème d'Atem, c'est que chaque fois, il arrive en octobre dans un club où il est, comme ça,
il
fait,
est pas
deux,
prêt,
comme ça fait deux mois qu'il est.
Il met du temps.
Il est pas prêt parce qu'il faut qu'il se prépare et tout ça. Et puis après, il est prêt en mars, quand la saison commence un peu à s'achever. Bon, après, on en profite. Hein. Il y a
et
quelques
fulgurances. Il est de moins en moins jeune.
Ouais.
Voire, il est de plus en plus trentenaire.
Il est né avec Messi.
Il a moins de 80 ans, mais il est de plus en plus jeune.
Il a plus le coup de rein qu'il avait, même à l'époque de l'OGC Nice, sur le terrain. Et
malheureusement,
je pense que son Ben Arfa, c'est une belle histoire qui est maintenant passée. Hein.
Ouais, est-ce que ça a été une belle histoire?
En tout cas, ça a eu, il y a eu des grands moments.
À Nice, c'était génial.
Ouais, voilà. Michel, son talent, c'est une rigolade. C'est un des plus grands gâchis de l'histoire du football.
Ouais. Oui, on est d'accord. Mais bah, en tout cas,
vu qu'il est de la génération 87, donc la fameuse, avec Nasri, Benzema, Jérémy Ménez et Atem Ben Arfa, on peut considérer que celui qui a le plus réussi s'appelle Karim Benzema. Je pense qu'il n'y a pas de doute. On peut dire qu'Atem, c'est pas ça, quoi.
Ouais, c'est très loin.
Du tout. Bon.
Voilà pour ce qui y était de ce mercato et on reviendra sur le bilan financier plutôt de cela, mais on y reviendra les prochains jours. Pour l'instant, eh bien, je vous propose de prendre la direction de Qatar 2022, c'est ça qu'il faut dire maintenant.
Ah, oui.
Africaine sur le chemin donc du Qatar, mais que la route est longue et dangereuse pour ces sélections qui, à l'issue de la phase de groupe, devront, on vous le rappelle, disputer des barrages forcément cruels. Il y a 10 groupes et il y aura 5 élus. Alors très attendu en tout cas à l'appel de ces premières journées d'éliminatoires en Afrique, eh bien ce sont évidemment, je dirais, les équipes mondialistes, celles qui étaient en Russie en 2018 et qui, rappelons-le, n'avaient pas atteint aucune les huitièmes de finale de la compétition.
Ouais, quel échec.
Quel échec et malheureusement un peu triste pour l'image des équipes africaines. Ces équipes, il y avait l'Égypte qui se trouve actuellement dans le groupe F, il y avait le Maroc qui est dans le groupe I, le Nigeria dans le groupe C et le Sénégal dans le groupe F. La Tunisie enfin dans le groupe B. État de leur force à ce jour, on va peut-être commencer par le Nigeria qui est là régulièrement, Patrick Juillard.
Le Nigeria, équipe régulière, équipe un peu diesel, souvent meilleure en phase finale qu'en éliminatoire, qui va commencer donc après-demain contre le Libéria à domicile,
qui va sans doute
bénéficier du résultat de cet après-midi entre la Centrafrique et le Cap-Vert qui ont fait match nul un partout. En cas de victoire, le Nigeria déjà se prendrait la tête de ce groupe, donc ce serait bien. Le Nigeria, équipe qui n'était pas si loin en Coupe du Monde, hein, rappelons-le, contre l'Argentine, ça s'était joué à pas grand-chose. On aurait pu avoir, comme en 2014, un France-Nigeria
en huitième de
Russie,
finale.
Donc voilà, une équipe qui a quand même des beaux attaquants en ce moment, des bons buteurs.
Oui, ils ont un potentiel exceptionnel.
Et un milieu de terrain aussi avec Didi de Leicester qui est quand même exceptionnel.
Et puis eux, il y a la régularité, il y a le même entraîneur.
Tout à fait, le même
entraîneur depuis 5 ans.
Donc effectivement, ça permet d'avoir une stabilité.
Oui, après le Nigeria, il y a beaucoup de qualités, il faut trouver le bon équilibre, voilà, l'état d'esprit.
Il faut trouver un gardien de but
aussi.
C'est
leur problème principal. Parfois, ils peuvent avoir des trous d'air. La dernière fois, ils ont fait un 4 partout avec
Sierra Leone, oui. En menant de 4 buts.
Mais bon, c'est une équipe qui devrait taper à la porte, quoi.
Groupe H, le Sénégal qui est avec le Congo, la Namibie et le Togo. Et d'ailleurs, il y a un premier match, hein, Sénégal-Togo.
0-0 à la mi-temps.
Ce Sénégal, c'est une équipe...
C'est un pronostic, hein. On verra. À la fin du match, je sais pas.
Ce sont des lions qu'on a vu finalistes de la CAN, ouais. Nabil.
C'est une équipe puissante.
Et c'est pareil, hein, à la Coupe du Monde, on avait été un peu déçus.
Ils avaient bien commencé et mal terminé, en fait.
Non, mais c'est une équipe puissante. Mais après, c'est un peu comme l'équipe de France, c'est Patrick qui en parle bien. Parfois, elle ne retranscrit pas son potentiel dans sa manière de jouer. C'est une équipe où un bloc solide, la cohésion, mais l'animation offensive... Parfois, elle est minimaliste. Elle tient sur un homme et des éclairs d'un homme et les fulgurances d'un homme. C'est Sadio Mané, tout simplement. Je veux dire, parfois, vous neutralisez Sadio Mané.
Oui, maintenant, il y a un bon gardien.
Ils ont un gardien fantastique au niveau africain. Édouard Mendy, déjà au niveau mondial, il est sûrement aujourd'hui dans le top 10. Mm-hmm. Au niveau africain,
il est dans le top 3.
Donc, il n'y a aucun problème. Ils sont complets à tous les postes. Mais est-ce que... Est-ce que cette équipe se lâche assez quand elle est sur le terrain? C'est-à-dire qu'il y a un potentiel fantastique et quand on la regarde jouer, on se dit « Ah oui, tout ça pour ça ».
C'est impressionnant.
C'est un peu triste parfois. Oui, on est souvent frustré.
Mais après, sur le papier, c'est impressionnant.
Après, c'est une équipe qui perd très peu, qui encaisse peu de buts, donc qui peut aller loin, même à coup de victoire 1-0.
C'est une équipe réaliste.
Ouais.
Les deux équipes maghrébines, on a le Maroc et la Tunisie. Le Maroc, Nabil, avec Vaïd, coach Vaïd.
Bah, apparemment, il y aurait quelques tensions, là, c'est ce qu'il dit. La conférence de presse a été annulée. Ziyech Hakim n'a pas été convoqué. Alors, c'est pas pour des raisons forcément liées à la situation sanitaire et à des déplacements en Afrique parce qu'il joue dans un club anglais. Il se dit également que voilà, c'est pas forcément le grand amour entre les deux. Ziyech avait déjà eu des difficultés avec Hervé Renard, c'est souvent un dénominateur commun. Là, il est tombé sur Vaïd. Après Vaïd, il a constitué un groupe, il a fait des choix, il y a des nouvelles têtes qui sont apparues, il y a des joueurs aussi intéressants qui émergent même au niveau international avec un numéro 9, ce qui leur manquait souvent, le Maroc.
En-Nesyri,
le joueur du FC Séville qui est vraiment un top player, et puis vous avez des tauliers et des jeunes émergents comme Hakimi par exemple qu'on connaît très bien maintenant en France, même si nous on le connaissait déjà, mais qui est un joueur exceptionnel. Donc la
là
qualité.
Là aussi, on a un bon gardien.
Il y a de la qualité. Non, mais c'est une équipe normalement. Si elle tourne à plein régime, elle est top 4 africain.
Le Maroc, son problème, c'est qu'elle reste sur un échec à la CAN 2019 où elle avait été éliminée à la surprise générale par le Bénin au tir au but en huitième de finale. Et s'ajoute à ça l'échec en Coupe du Monde qui était vécu comme une injustice avec le VAR, avec l'arbitrage. Cette équipe a un vécu un peu difficile en phase finale. Il faut qu'elle le surmonte. Mais sur les éliminatoires, je suis pas inquiet. Après, le Maroc va sortir premier de sa
poule. Ali à la pratique en plus. Il était déjà à la Coupe du Monde, on s'en souvient.
Attention à la Guinée quand même. Ils sont dans la poule de la Guinée.
Ouais, mais la Guinée.
Non, je suis d'accord avec toi, Patrick. Mais
le management de l'équipe.
Ouais, mais les Guinéens, ils sont imprévisibles. Il y a du talent.
Didier Six, leur sélectionneur, est imprévisible aussi. Pardon à Didier.
La Tunisie. Un petit mot sur la Tunisie parce que c'est pareil. À la Coupe du Monde, on les avait vus.
La Tunisie, c'était faite ouvrir par la Belgique à la Coupe du Monde, mais avait quand même battu le Panama, ce qui lui avait permis de gagner un match.
Ce
que l'Égypte n'avait pas su faire contre l'Arabie Saoudite. La Tunisie, équipe très régulière, mais en ce moment, le championnat tunisien ne produit plus autant de bons joueurs qu'à une époque, et l'équipe est devenue une équipe un peu comme l'Algérie, une équipe surtout basée sur des joueurs binationaux, alors qu'elle tirait pas mal sa force des joueurs des gros clubs tunisiens, Espérance, Étoile du Sahel.
Autre équipe, la cinquième, je l'ai gardée pour la fin parce que l'Égypte.
Ah.
L'Égypte dans le groupe F avec avec le Gabon,
l'Angola.
La Libye et l'Angola. Mais alors, état de leur force à eux, eh bien, ils sont sans Mohamed Salah et on connaît le problème. Il y a la Première Ligue qui n'a pas voulu libérer certains joueurs. La FIFA apparemment n'a pas réussi à faire pression et donc voilà que cette Égypte, elle va se retrouver sans son joueur de Liverpool. Un autre entraîneur, sélectionneur frustré, c'est celui des Ivoiriens, qui lui est dans le groupe D, et en plus avec le Cameroun. Il s'agit de Patrice Baumel. Écoutons un peu son cri et son appel, surtout qui n'a malheureusement pas été vraiment entendu.
Nous, Fédération Ivoirienne de Football, on a pris toutes les mesures pour protéger l'intégrité physique et sanitaire des joueurs et du staff. Donc je trouve dommage de ne pas jouer le jeu. Après, je comprends, les clubs sont les propriétaires des joueurs, c'est eux qui payent les salaires, donc je comprends qu'ils veuillent garder leurs joueurs. Mais on parle d'éliminatoire Coupe du Monde. On devrait libérer les joueurs, quoi qu'il arrive, pour les dates FIFA, parce que si aujourd'hui, je n'ai pas les joueurs anglais et que l'Italie s'en mêle et que ça devienne mondial, donc sur le fair play, ça laisse à redire. C'est un casse-tête total.
C'est un casse-tête, mais surtout...
C'est très énervant, Annie.
C'est pénible.
C'est très énervant.
L'Égypte sans Salah, c'est déjà évidemment plus l'Égypte.
Très énervant, c'est... ça fait partie de la guerre vieille comme le football entre les clubs et les sélections. C'est moi qui te paye, donc c'est moi qui décide. Quand tu vas en sélection, tu vas te blesser, tu vas revenir fatigué.
Je pense que vous pensez aussi à l'équipe de France Olympique, n'est-ce pas?
Tous. Voilà. C'est partout la même problématique. C'est pas qu'en Afrique, c'est pas qu'en Angleterre, c'est pas qu'en Europe, c'est partout. C'est toujours comme ça. Or, le football de sélection, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. On joue sans publicité, on joue pour son pays. Moi, j'adore ça.
On enflamme les supporters.
On est là pour voir des CAN, on est là pour voir des Euros, on est là pour voir des Coupes du Monde. C'est ça. C'est très bien Barcelone, c'est très bien le Real Madrid, c'est très bien le PSG, mais notre histoire de foot, on est nourri à ça et on vient au foot par à l'enfance, ce qui nous attrape, c'est une Coupe du Monde, c'est une image furtive, comme ça on comprend pas tout, on est jeune. Et c'est ça qu'ils veulent saccager en permanence, les clubs, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'argent, ah oui. ce sont les clubs.
Ils veulent dominer le monde. Dominique, je suis d'accord sur le fond, évidemment, mais tout le monde est un petit peu fautif. Les ligues ont alourdi leur calendrier, chacune dans son pays. La FIFA a alourdi le sien en inventant des compétitions inutiles. Et à la fin, les joueurs, il n'y a que 365 jours par an et ça reste des êtres humains. Donc forcément, ça crée des tensions.
Ouais. Bon, en tout cas, malheureusement, l'Égypte sera sans Mohamed Salah. Il y a d'autres équipes qui sont très attendues pour intégrer ces mondialistes. Et évidemment, Nabil, on pense aux champions d'Afrique. On se souvient de vous à la victoire en Coupe d'Afrique en 2019. Nabil, il y a un homme évidemment qui peut tout changer en plus dans cette équipe. On l'entend, c'était son dernier but, c'était sur un coup franc. Alors c'était pas du tout à la finale, c'était dans le match amical contre la Tunisie. Il avait marqué le deuxième but.
Oui, tout à fait, vous avez raison.
C'est une équipe qui fait peur et qui en plus a envie d'améliorer le record qu'elle a déjà établi. Elle a dépassé la Côte d'Ivoire, 27 matchs sans défaite.
Oui, oui. Bah, c'est une équipe qui est sur une séquence assez incroyable.
Là aussi, il y a une stabilité, parce que finalement, Belmadi
stabilité,
est toujours là.
Stabilité, et puis culture un peu de la victoire, culture de la gagne, ce qui n'existe pas forcément tout le temps en Algérie, peut-être même en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, le plus difficile, c'est pas tellement de gravir l'Everest ou le Kilimandjaro, c'est d'y rester, de continuer à progresser. C'est un peu l'angle sur lequel travaille aujourd'hui Belmadi, c'est de continuer à améliorer cette équipe, parce que c'est vrai que vous avez souvent des décompressions après des gros succès. Et il a réussi à maintenir son groupe dans le même état d'esprit. Et je trouve que c'est ça sa plus belle, en tout cas pour l'instant, sa plus belle réussite. Après, évidemment, il faut rester vigilant, parce que les éliminatoires Coupe du Monde en Afrique, c'est toujours extrêmement compliqué. C'est un parcours du combattant. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de certitude. Après, sur la qualité des joueurs, bah, vous parlez de Mohamed Salah du côté de l'Égypte, ou de Mané du côté du Sénégal, bah, l'Algérie, elle a sa star. Ouais. Une star qui avait éliminé le Paris Saint-Germain la saison dernière en demi-finale de Ligue des Champions, bah, c'est Riyad Mahrez.
Ça fait rire Dominique.
Non, mais on se taquine.
On le connaît. Il n'y a pas de souci.
En plus, c'est un gamin de la région parisienne, donc voilà. Donc voilà, ils commencent par deux matchs à domicile déjà face à Djibouti. Ensuite, ils se déplacent.
C'est avec le Burkina Faso, le Niger.
Maroc. Hein. Ils se déplacent au Maroc puisque Burkina ne peut pas recevoir.
Rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
Ouais, mais il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques entre les peuples, c'est le plus important.
Ouais.
Voilà. Et donc avec ce match face au Burkina qui va être extrêmement intéressant.
Dominique, l'Algérie, c'est peut-être en ce moment l'équipe qui aurait le niveau peut-être pour gêner des équipes en Coupe du Monde, et on a tous encore en tête 2014 et ce match un peu épique entre l'Algérie et l'Allemagne.
On a hâte.
Huitième de finale.
On a hâte, c'est... Moi, je vous dis, j'adore le football de sélection. C'est aussi la confrontation de culture. Et là, effectivement, elle a un niveau technique tellement impressionnant qu'on a hâte de la voir face à l'Allemagne, la France, l'Italie. Voilà. Un Algérie-Italie, ça peut être sympa.
Ce qui est incroyable, c'est qu'un Algérie-France, ça ne peut pas s'organiser.
Donc, en Coupe du Monde.
C'est une anomalie incroyable. Et alors, Noël Le Graët, il dit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais sur Algérie-France, il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi on peut pas jouer contre l'Algérie? Enfin.
Bah, ça fait juste 10 ans qu'il est président de la fédération.
Comme quoi, il a essayé, alors je veux bien...
Une pendule arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour.
Ouais, mais alors je veux bien croire que ça dépasse le cadre sportif et que ça dépasse peut-être même son champ de compétences, parce que ça a l'air bien plus compliqué.
Ça raconte beaucoup de choses sur la France, qui est, je vous le rappelle, un pays malade, crispé, comme je l'ai dit tout à l'heure.
L'Algérie, en deux mots, Patrick Juillard,
L'Algérie, comme l'a dit Nabil,
ça reste l'équipe de 2019 pour l'instant.
Elle essaye et elle réussit pour l'instant à surfer sur cette vague fantastique et... Le fait d'avoir un record mondial en point de mire, les 35 matchs consécutifs qu'ils peuvent atteindre, ils
de
en
l'Italie.
Sont à, je crois, à 27 ou 28.
Bah, Annie a dit 27.
Voilà, oui, 27. Ils en sont à 27.
Ils vont jouer le 28e, effectivement, voilà. Donc c'est ça. Je pense que c'est un gros moteur pour ce groupe.
Oui, répétons-le, c'est les champions d'Afrique qui courent derrière les champions d'Europe, puisque c'est les Italiens
si,
qui, pour l'instant...
Si c'est en demi-fond, on va gagner. Si c'est en foot, j'en sais rien.
Il pourrait être ballon d'or, Riyad Mahrez, en plus. Hein. Ah. Il pourrait être ballon d'or, il le mériterait.
Et ballon d'or dans le cœur de tous les Algériens. Et ça vaut tous les ballons d'or.
Et c'est déjà énorme.
Que c'était Slimani.
C'est la fin
ça,
de ce. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs. Et nous, chers auditeurs, à demain.
Écoutez-moi.